Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, la purification des corps, des âmes et d'une institution tout entière. L'Église va regarder la pédophilie en face jusqu'à dimanche, sommet exceptionnel au Vatican. Nous y serons dans un instant. Une loi contre la haine sur Internet, annonce d'Emmanuel Macron contre l'antisémitisme hier soir. Pression maximale sur les réseaux sociaux. L'affaire Benalla et les 13 propositions de la commission d'enquête du Sénat, l'Élysée y répondra point par point aujourd'hui à 8h20. Nicolas, le plus virulent des sénateurs de cette commission.
Oui, le président de la dite commission, Philippe Bas, est notre invité dans 20 minutes. Vous pouvez dialoguer avec lui évidemment. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile France Inter.
À la une également, la contre-attaque de Carlos Ghosn, nouveaux avocats, nouvelle stratégie, la justice japonaise clouée au pilori, interview exclusive de son défenseur français dans ce journal. 10 conflits oubliés de la planète également et 40 millions de personnes en danger, dit l'ONG CARE. La mobilisation de lycéens du Tarn pour soutenir un camarade qui se maquille pour venir en classe. Et puis une expo glamour pour terminer ce journal. Jean-Marie Perrier sur le toit de la Grande Arche de la Défense et photos des yéyés aux mannequins stars des années 90.
France Inter.
14 000 enfants abusés en Irlande, 4 500 en Australie, 3 700 en Allemagne. Aux États-Unis, rien que dans l'Illinois, 700 prêtres catholiques accusés de pédophilie. Et l'on pourrait dérouler comme ça cette litanie pendant longtemps, litanie des abus commis par ceux qui prônent la morale et l'abstinence, des abominations face auxquelles l'Église ne détournera plus jamais le regard, a promis le pape François en décembre dernier, lui qui convoque aujourd'hui un sommet totalement inédit au Vatican. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Rome, où toute la hiérarchie épiscopale mondiale a été convoquée jusqu'à dimanche. Mathilde, le pape veut purifier l'Église.
Et il sait que l'enjeu est considérable. On parle de la crédibilité de l'Église avec ce sommet. Le Vatican se démène pour en faire un tournant dans la lutte contre les abus. En interne, l'équipe de communication a été renforcée. Le pape François a rappelé auprès de lui un communicant jésuite très respecté ici, le père Lombardi, pour modérer les 3 jours de débat. Il a fait travailler ses équipes, mais il a aussi demandé aux évêques d'arriver préparés à ce sommet. Ils ont dû rencontrer en amont des victimes de leur pays, remplir un questionnaire sur les améliorations envisagé. Durant 3 jours, pas moins de 114 présidents de conférences épiscopales vont travailler par groupe linguistique, écouter des intervenants, le tout sous la houlette du pape lui-même qui assiste à l'ensemble des débats.
Alors de ce sommet, les milliers de victimes de prêtres à travers le monde attendent beaucoup. Olivier Savignac, par exemple, abusé par un abbé dans les années 90 lors d'un camp de vacances, il est à Rome pour ce sommet.
On attend concrètement une feuille de route de la part du pape et de ses cardinaux à la sortie de ce sommet, des axes concrets de travail. C'est-à-dire qu'il en sorte vraiment une ligne claire et précise de la part de l'Église, c'est-à-dire qu'elle mette en œuvre ce qu'elle appelle la tolérance zéro, qui veut dire transparence totale et qui veut dire aussi s'occuper de chaque cas d'abuseur, d'agresseur, et le condamner aussi canoniquement, c'est-à-dire par un tribunal ecclésiastique de l'Église, prendre une sanction à son égard. Et on se rend compte que dans la pratique, en fait, bien sûr, il y a des procès canoniques, mais pas pour tous les agresseurs ou tous les prédateurs sexuels qui sont encore en vie. Donc ça montre bien qu'il y a, entre le discours et les actes, il y a quand même encore beaucoup de différences.
Parce que ce discours, Mathilde Imberti, l'Église l'a déjà eu. Depuis Jean-Paul II, un protocole et des sanctions ont été édictées. Alors qu'est-ce qui va faire la différence cette fois ?
Eh bien, écoutez, les normes existent, effectivement, les évêques, ceux qui ont couvert sciemment ou par négligence, selon le tout dernier texte de François en la matière, doivent être révoqués, par exemple. C'est l'application qui pose question à Rome. La commission qui voit remonter les affaires est débordée, et au niveau local, selon les pays, la volonté est plus ou moins évidente. Alors, le pape veut d'abord que chaque évêque reparte chez lui avec l'idée de faire de la lutte contre les abus une priorité, ce qui n'est pas le cas dans tant de pays, en Afrique, en Asie en particulier. Ensuite, les mesures, eh bien, peut-être va-t-il renforcer renforcer un maillon de la chaîne, évoquer le secret de la confession. À cette heure, rien n'est fait, mais le Vatican a annoncé pour lundi prochain une réunion interministérielle pour avancer des suites concrètes à ce sommet. L'Église veut avancer.
Mathilde Imberti, correspondante de France Inter à Rome.
Il est 8h05, comment aller plus loin maintenant dans la lutte contre l'antisémitisme?
Cette question, Emmanuel Macron y a répondu hier devant les institutions juives de France. Il annonce une loi pour sévir sur Internet où les messages de haine pullulent sans contrôle ou presque. Il faut pouvoir retirer ces propos rapidement, dit le président, et identifier leurs auteurs pour les punir.
Dans ce contexte, la question de l'anonymat sera évidemment posée. Elle est trop souvent le masque des lâches. Et derrière chaque pseudonyme, il y a un nom, un visage, une identité. Faut-il interdire partout sur Internet l'anonymat ? Je pense que nous pourrions aller, par cette voie, à quelques égards vers le pire. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que parce qu'il y a l'anonymat, le contenu ne soit pas retiré dans les meilleurs délais, que l'identité ne soit pas recherchée et ne soit pas donnée. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires, imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine, et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais, et enfin appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, lesdites plateformes.
Emmanuel Macron qui considère aussi qu'il faut interdire aux personnes condamnées pour racisme et antisémitisme de continuer à s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est une vraie question, selon Sacha Gozlan, président de l'Union des étudiants juifs de France.
Quand on voit des personnes comme Dieudonné, comme Alain Soral, qui ont été condamnées des dizaines de fois par la justice française, parfois même à des peines de prison ferme. On a fait condamner il y a un mois et demi Alain Soral à un an de prison ferme. Cette peine-là n'est absolument pas dissuasive pour lui, puisqu'il continue à propager la haine. Donc, à un moment, il faut mettre un coup d'arrêt, il faut les assécher financièrement, il faut leur empêcher de continuer à partager des contenus haineux à des millions de visiteurs chaque mois. On parle de millions de personnes qui sont confrontées à des contenus haineux et qui les absorbent et qui les emmagasinent et qui nécessairement se traduisent par des actes violents contre les juifs.
Sacha Gozlan, micro de France Info. Emmanuel Macron a aussi annoncé la dissolution de 3 groupuscules d'extrême droite. Il évoque également, sans plus de précision, une nouvelle définition de l'antisémitisme élargie à l'antisionisme. Voilà un homme qui a soutenu Alain Soral, dont nous parlions il y a un instant, condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine raciale, notamment. Cet homme s'appelle Étienne Chouard, il doit sa récente notoriété aux Gilets jaunes et à François Ruffin, qui ont exhumé une de ses propositions, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, débattu aujourd'hui à l'Assemblée avec une proposition de loi des Insoumis. Maxence Lambrecq a rencontré Étienne Chouard, dont l'heure de gloire a, semble-t-il, sonné.
Révoquer les élus, abroger des lois, rédiger la Constitution à coup de référendum, c'est le rêve d'Étienne Chouard qui n'est pas prêt de devenir réalité.
On sait bien que la majorité ne votera jamais. La majorité est composée de voleurs de pouvoir qui préfèrent, je pense, mourir que de nous donner une parcelle du pouvoir qui nous
en
volait.
Ces propos radicaux en font un ambassadeur des Gilets jaunes. Pour lui, l'élection, c'est un piège à con.
Quand j'élis, quand je mets le nom de quelqu'un dans une urne en disant « c'est toi qui vas être l'élu », j'accepte d'être infantilisé, d'être considéré comme un incapable politique par des tuteurs que sont les élus.
Haro sur les élus, haro sur les complots, Étienne Chouard assume cette étiquette.
Oui, je suis un complotiste. Comme tout citoyen digne de ce nom, je suis vigilant et donc je me méfie des complots, des puissants du moment.
Et il ne veut exclure personne du débat. Pendant un temps, il discutait avec Alain Soral, condamné pour antisémitisme.
Pourquoi vous vous fixez sur les gens d'extrême droite ? Je discute aussi avec des gens d'extrême gauche, des staliniens. Je ne viens pas royaliste parce que j'ai parlé à un royaliste. Je parle avec tout le monde.
Étienne Chouard aime les grands écarts. Après avoir voté Jean-Luc Mélenchon en 2017, il soutient désormais pour les européennes François Asselineau, un promoteur du Frexit.
Maxence Lambrecq, quand l'Élysée resserre les boulons dans le sillage de l'affaire Benalla, après les conclusions sans appel des sénateurs sur les dysfonctionnements au palais présidentiel, on apprend que plusieurs collaborateurs ont dû rendre leur passeport diplomatique, ce qui fera sans doute partie des réponses qu'apportera l'Élysée aujourd'hui aux 13 propositions de la commission d'enquête.
8h09, et si le futur procès de Carlos Ghosn devenait le procès de la justice japonaise?
L'ancien patron de Renault-Nissan en prison et au secret depuis 3 mois à Tokyo, comme un message message envoyé à tous les hommes d'affaires du monde, dit son nouvel avocat japonais. Voilà ce que vous risquez à venir faire des affaires dans l'archipel, subir un système judiciaire contraire au droit international, comme le dit la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est ce cheval de bataille qu'a décidé d'enfourcher son avocat français. Il vient lui aussi de reprendre le dossier. Il a accordé une interview exclusive à Laurent Kramer de France Inter.
Ancien ambassadeur de France chargé des droits de l'homme, François Zimeret est un expert en droit international. L'avocat de Carlos Ghosn pointe les dysfonctionnements de la justice japonaise qui n'a selon lui pas d'éléments probants pour maintenir l'ancien PDG de Renault en détention.
Il reste en prison parce qu'on essaye d'obtenir de lui des aveux de faits qu'il n'a pas commis. Il n'a pas droit à un avocat pendant ses interrogatoires. Il est invité à s'auto-incriminer en permanence. La religion de l'aveu est au cœur du système pénal japonais.
Système pénal japonais où 99% des accusés finissent condamnés, système carcéral japonais où les conditions de détention sont organisées pour obtenir des aveux, estime François Zimeret.
C'est ce que j'appelle la torture légale, c'est-à-dire maintenir des gens en prison jusqu'à ce qu'ils avouent. Et cela est dénoncé au Japon même. Il y a une dimension qui devient croissante dans cette affaire, c'est le souci pour le procureur de ne pas perdre la face. Parce qu'il ne veut pas que l'on découvre qu'il aura déclenché une tempête mondiale pour des faits qui ne peuvent valoir chez nous une incarcération aussi longue et un traitement aussi rigoureux que celui qui lui est imposé.
Au regard du droit international, la détention de Carlos Ghosn serait donc impossible en France ou aux États-Unis pour les faits qui lui sont reprochés au Japon, conclut l'avocat de l'ancien PDG.
Aux États-Unis, 25 balles dans la peau pour un jeune noir endormi au volant de sa voiture sur le parking d'un fast-food. 6 policiers ont vidé leur chargeur parce qu'ils avaient vu une arme dans la voiture. Ça s'est produit le mois dernier, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donald Trump, qui appelle les Européens à récupérer leurs djihadistes détenus en Syrie, refuse de rapatrier les siens. Le cas d'une femme fait la une aux États-Unis. Elle est née dans le New Jersey, mais le président américain considère qu'elle n'est pas américaine. Loin de la Syrie, dont on parle régulièrement, l'association CARE alerte sur 10 conflits oubliés de la planète, les moins médiatiques du monde, Haïti, Madagascar, le Tchad, les Philippines. Au total, ce sont plus de 40 millions de personnes qui se retrouvent déplacées ou en danger, Nathanaël Charbonnier, dans l'indifférence de la communauté internationale.
Pour établir son triste palmarès, l'association CARE a tout simplement recensé les citations dans les médias francophones, anglophones et germanophones. Et le constat est sans appel, il y a bien des conflits qui n'intéressent pas ou pas assez et plus pernicieux encore. Dans un même pays, un conflit peut en cacher un autre, comme l'explique le président de CARE France, Philippe Lévesque.
Alors la crise la moins suivie, c'est celle d'Haïti, mais pas le Haïti dont on entend parler aujourd'hui pour des problèmes politiques, mais les problèmes d'accès à la nourriture et de faim dans le nord d'Haïti. Au Niger, ce n'est pas la crise des conflits pseudo-religieux, c'est le problème du manque d'accès à la nourriture dans le reste du Niger.
En République démocratique du Congo, même effet, même conséquence. On a parlé de l'épidémie d'Ebola, quelques centaines d'individus, mais peu de choses sur les 13 millions de personnes qui auraient besoin d'aide alimentaire. Du coup, les dons manquent. Benoît Munch, directeur CARE en RDC.
En 2018, on avait demandé 1,6 milliard de dollars et à la fin de l'année dernière, on avait sécurisé moins de 50% de cette somme. Donc ça veut dire que par le manque d'attention, on a un manque d'investissement des bailleurs de fonds dans la crise, qui du coup fait que d'année en année la situation se détériore.
Enfin, on pourrait encore citer Madagascar où là dans le sud, ce sont les réfugiés climatiques qui sont oubliés.
Y a-t-il des snipers dans les favelas de Rio, des défenseurs des droits de l'homme au Brésil, enquête sur des tireurs d'élite de la police qui pourraient avoir tué plusieurs habitants d'un quartier depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Voilà une histoire qui dénote maintenant dans une actualité focalisée sur les discriminations et les discours de haine. L'histoire d'Alexis, jeune lycéen du Tarn, convoqué par la direction de son lycée d'Albi parce qu'il aime se maquiller pour venir en cours. Ce ne sont pas ses camarades qui s'en émeuvent, non. D'ailleurs, pour le soutenir, ils viendront au lycée Bellevue maquillés aujourd'hui, comme ils l'ont déjà fait mardi, Sandrine Morin.
Un parent appelle le lycée parce que sa fille croise Alexis en talons et maquillé dans le self de la cité scolaire. C'est l'histoire que raconte le jeune homme de 17 ans, mais lui tient bon. Il ne voit pas le problème.
Pour certaines personnes, les talons et le maquillage, c'est réservé aux filles, aux personnes transsexuelles, aux personnes homosexuelles. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on a chacun le droit de porter ce qu'on veut et pour renverser les codes, clairement.
Et ce qui a touché Alexis, ce sont tous ces garçons comme Emilio, Lucas, Max, qui se sont maquillés pour le soutenir.
Il y avait environ 50 personnes qui se sont maquillées. C'était une bonne ambiance. C'était un peu comme un événement, un peu. C'était amusant pour combattre la situation, un peu.
À force, on ne le sent même plus. C'est juste pour l'enlever, c'est un peu énervant, mais franchement, ça passe. Hein. En plus, je trouve ça artistique. Vraiment, ça change le visage.
On va refaire ça, on va se remaquiller pour lui, pour le soutenir.
Une situation qui met également en rogne les jeunes femmes. On est en 2019, répète Jade.
Il y a des filles au collège, elles se maquillent de plus en plus jeunes et elles ressemblent vraiment à des pots de peinture, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Et lui, c'est plutôt de l'art parce qu'il met des couleurs, il met des belles choses. Cette façon de penser, vraiment, ça me dépasse.
Des lycéens qui insistent tous, cette interdiction ne ressemble pas à leur lycée réputé très ouvert.
Les poules de batterie n'ont plus la cote ou la coque. Pour la première fois l'an dernier, il s'est vendu plus d'œufs de poules élevées au sol, Nicolas, et au sol ou en plein air dans les supermarchés que de poules coincées dans des cages, dans des hangars. Ce fut une correction du PSG infligée à Montpellier hier soir 5-1 en Ligue 1. Ils nous ont punis, reconnaît l'entraîneur montpelliérain. Autre résultat à retenir en Ligue des Champions, 8e de finale aller, l'Atlético Madrid a battu la Juventus Turin 2-0. Enfin, son œuvre, c'est un peu le bottin mondain des années 60 à 90. Son nom, Florbon, les Sunlights et les Paillettes. 300 photos de Jean-Marie Perrier s'exposent en ce moment sur le toit de la Grande Arche de la Défense, dont une centaine d'inédites. Vous y verrez James Brown, les Beatles, Mick Jagger et les Karl Lagerfeld, évidemment, aussi 40 ans de carrière sur le toit de cette Grande Arche avec Mathieu Culeron.
Le sourire de Johnny en vacances avec Sylvie Vartan, Dutronc en armure médiévale, les Beatles au grand complet, les Stones dans leur jet privé et bien sûr Françoise Hardy dans sa chambre de bonne. Jean-Marie Perrier à 20 ans va photographier toute la scène rock des années 60 pour Salut les copains. Le tout dans une intimité inimaginable aujourd'hui.
Quand je rencontre les Beatles pour la première fois, c'est parce que Brian Epstein veut qu'ils soient dans le journal. Ce qui est hallucinant. Tous ces mômes, que ce soit de Johnny, Sylvie, Françoise, Dutronc, tous... Bah, ils avaient entre 17 et 20 ans. C'est des souvenirs extraordinaires avec Johnny et Sylvie. Quand ils m'avaient pris comme témoin de leur mariage, qui était déjà très gentil, mais en plus, ils m'emmènent en voyage de noces. Écoutez, en 12 ans, il n'y en a pas un qui m'a jamais refusé une photo. Vous pouvez aller sur scène derrière Mick Jagger pendant tout le concert, sur la scène derrière pour faire des photos, c'était pas un problème. On trouvait ça normal. C'est ça qui est bien.
Et c'est en prenant des clichés de la scène yéyé qu'il tombe amoureux de Françoise Hardy, qui deviendra ensuite une icône internationale.
La première fois que je fais des photos d'elle, c'est dans sa chambre. En plus, elle est d'une beauté fracassante et elle ne le sait pas. Ce qui est un truc à tomber par terre pour un photographe, mais alors pour un mec, je vous raconte pas.
Souvenir d'avenir, 300 photos de Jean-Marie Perrier, dont plusieurs totalement inédites. Une exposition pour rentrer sans frapper dans l'intimité des stars des années 60.
Je suis d'accord, ensemble on est heureux, je suis d'accord.
On est heureux, Nico.
Ah, mais tellement. Allez, salut ma copine. C'était le journal de Florence Paracuelos.